L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
12h35, bien tapé. On retrouve Bernard Vacherot pour la suite de son histoire des religions.
Salut, bonjour à tous, bonjour
et
à
toi. Si vous voulez, on enlève les pauses musicales, hein, moi ça m'est égal. Mais vous êtes un tarissable.
Ça finirait par être casse-bonbon, pour parler poliment.
Allez, je vous en fais une au milieu de l'émission.
Je pense que ça distrait un peu les gens. Hein. Alors justement, pour revenir à nos oignons, si j'ose dire, la question de la pauvreté évangélique était donc fortement dans l'air du temps. Et l'autorité ecclésiastique en mesurait bien sûr la nécessité, mais n'avait pas toujours le pouvoir ou le courage, ne discutons pas sur les mots, de l'imposer. Le concile de Latran, qui a été tenu en 1060, puis prit la question en s'attaquant à la simonie qui continuait de sévir dans le haut et le bas clergé. Ce fut le pape Grégoire VII, pape de 1073 à 1085, qui accéléra le processus des réformes par des décrets prononcés et rédigés en 1074 à l'encontre du clergé simoniaque et saisit l'occasion pour réclamer le célibat ecclésiastique qui fut officiellement promulgué en 1139 au Concile de Latran. Et je dois dire que cette question-là, si elle a été promulguée en 139, c'était pas du tout pour des raisons mystiques que l'on a prétendues par la suite. On trouve toujours des raisons de motiver d'autres motifs, n'est-ce pas? C'était pour des raisons très bassement matérielles. Le clergé ne regardait pas à certaines méthodes pour se procurer de l'argent. Et le résultat, c'est que comme la plupart des prêtres étaient mariés, au moment de l'héritage, l'Église craignait toujours de voir fuir l'argent de l'héritage vers les enfants de monsieur le curé et de sa charmante dame, et non plus dans les poches de l'Église. Vous comprenez que cette motivation fut de loin celle qui emporta la décision du Concile de Latran en 1139 et que l'on motiva ainsi, on prétexta l'évangile de Matthieu XVI, n'est-ce pas, pour motiver le célibat. Alors, critiquer dans l'Église et hors d'elle la simonie et l'abus des richesses, ces mots sont les cibles de rejet qui trahissent bien un réel mal à l'aise de cette question. Se pose alors une question, faut-il imiter le Christ ou convient-il de faire régner le Christ par le pouvoir que procure l'argent? La question n'était pas fausse. Le pouvoir que procure l'argent permet des œuvres sociales et caritatives, humanitaires. Le prétexte n'est pas faux, mais la réalité ne permet-il pas aussi de dissimuler des actions malhonnêtes? C'est pourquoi justement il a fallu trancher le problème. Beaucoup, comme par exemple les pauvres de Lyon, c'est un mouvement du Moyen-Âge, les Vaudois, les Cathares, beaucoup pensaient ainsi, et comme l'Église le craignait. Mais d'un autre côté, face à des besoins réels, comme le financement des combats, c'est pas très glorieux, contre les attaques musulmanes, ou bien le financement d'œuvres caritatives, je vous le disais tout à l'heure, ou missionnaires, imposaient des frais lourds qui nécessitaient de l'argent et de véritables structures financières. Alors, pouvait-on faire du romantisme mystique ou devait-on faire du réalisme financier? La question n'était pas simple et l'on devait se garder des réflexions simplistes qui ne solutionnaient rien et compliquaient tout. Car l'Église a beau avoir son cœur au ciel, son incarnation est quant à elle nécessairement terrestre. L'Église voulut donc conjuguer harmonieusement les deux thèmes, argent et esprit du Christ. Donc, avoir une vision chrétienne de l'argent et du système financier général en particulier. Pour cela, elle ne cessa pas d'avoir des réflexions et études du problème par tous les moyens, en faisant appel à des financiers comme à des théologiens, des mystiques, des moines, des moniales, des ermites, pour avoir leur éclairage spirituel, juridique et technique. C'est dans ce contexte que les réponses d'un saint François d'Assise eurent et ont leur importance pour l'Église, du fait que ces réponses étaient toujours données dans un esprit de recherche de la volonté du Christ et de l'obéissance à l'Église. L'intérêt des réponses de François d'Assise réside justement en cela, car répondait parfaitement aux questions que se posait l'Église dans un esprit d'humilité, de charité et d'équilibre, et répondait aux critiques de ceux qui, soit isolément, soit en groupe religieux contestataire, comme par exemple les cathares, les pauvres de Lyon, les vaudois et autres, se détachaient de l'Église, voire s'opposaient totalement à elle. La preuve de cet intérêt de l'autorité ecclésiastique pour les réponses de François d'Assise est justement le fait qu'il ait pu participer, même momentanément, au concile de Latran IV en 1215 et y exposer l'esprit de son projet de fondation franciscaine, et qu'il ait été non seulement accepté, mais mieux encore, reconnu. Non seulement cela, mais il a, je le rappelle, fasciné le très intellectuel Dominique, au point que ce dernier, je vous l'ai dit dans une émission précédente, avait pensé un moment à fusionner les deux ordres. D'ailleurs, il en a gardé l'esprit de pauvreté aussi pour les dominicains. On mesure ici l'importance des implications visibles et invisibles des réponses qu'apportait François d'Assise aux grandes questions qui se posaient alors à l'Église comme au monde politique et religieux. On pense à ce niveau au dialogue interreligieux avec l'islam, lors de sa rencontre avec le sultan d'Égypte, lors de la croisade voulue par le pape Honorius III, qui a exercé le pontificat de 1216 à 1227. Ce fut la cinquième, et elle dura de 1217 à 1221. Or, ce sultan égyptien, nommé Malek el-Kamel, au début, il faut le dire, quand même, étonné par ce religieux qui se présentait à lui comme un va-nu-pied, avec de rares frères aussi pauvres que lui, alors que jusque-là il avait rencontré des religieux chamarrés d'or. Eh bien, cette opposition a séduit Malek el-Kamel, et il a été marqué par la sincérité et la foi de ce François d'Assise, et il aurait même voulu le garder auprès de lui. Car il pensait au fond que l'idée de François d'Assise rejoignait l'esprit de pauvreté dans l'islam. Mais, désolé, il n'a pas pu le garder. Et d'après Celano, le biographe de François d'Assise, Malek el-Kamel aurait dit, en voyant partir François et ses frères, la phrase suivante. « Ne m'oublie pas dans tes prières, et puisse Dieu, par ton intercession, me révéler la croyance qui est la plus agréable. » Non, Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de cette phrase dite par Malek El Kamel, sultan égyptien, musulman de haut niveau, qui dit ceci, et puisse Dieu, par ton intercession, me révéler la croyance qui lui est la plus agréable. Suggère-t-il qu'il se pose des questions sur la validité de l'islam et du christianisme? Vous voyez que la question est énorme. La question est d'autant plus énorme qu'il y a là un esprit de dialogue intellectuel et spirituel qui va très loin. Et si l'on veut qu'il y ait aujourd'hui un dialogue entre les frères croyants de l'une et l'autre religion, il nous faut justement nous baser sur ce qui en profondeur nous réunit, à savoir la recherche de Dieu et rien que de Dieu. Dans la mesure où nous en sommes convaincus, frères musulmans et frères chrétiens pourront trouver leur point commun. Là, je pense que nous avons aujourd'hui une méditation sérieuse à faire sur notre conception religieuse les uns et les autres. Si vous voulez retrouver cette phrase du sultan Malek El Kamel, lisez les mémoires de Celano au chapitre 57, Bonaventure A, chapitre 9, versets 8 et 9, et lisez aussi Opera Omnia, tome 5, page 422, ou Giano dans Analecta, premier chapitre, page 4, et autres auteurs comme De Vitry, Golubovitch, Ernoul, etc., cité par Omer Engelbert dans son ouvrage « Vie de Saint François d'Assise » aux éditions Albin Michel, 1947-1972, page 264, note numéro 1.
Parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. S'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain. Quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent. Les soirs montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. la mer se déchire, infiniment brisé par des rochers qui brillent, des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas, quelques pas, quelques pas de danse. Des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent. Et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, j'ai mis René par de mise.
Après cette pause, on se retrouve avec Bernard Vacherot pour les 5 dernières minutes de l'émission d'aujourd'hui.
Eh bien, j'ai le plaisir de vous retrouver et d'éprouver par là votre patience et votre courage. Je suis allé, tout à l'heure, à vous expliquer que François d'Assise est d'autant plus passionnant que, pour le dialogue interreligieux, il nous montre la valeur pour l'islam comme pour le christianisme de la pauvreté. Non pas qu'il faille courir après la pauvreté, non, mais la grandeur de la pauvreté qui élève au spirituel. On voit ici une initiative de dialogue interreligieux d'autant plus intéressante qu'elle est des plus personnelles et ne reçut pas de part et d'autre d'encouragement, bien au contraire, dès la part des croisés et de la part des chefs religieux, comme en témoigne le contemporain de François, Jacques de Vitry, dans ses lettres au chapitre 1 et chapitre 6, aux éditions Huygens, pages 75, 76, 131, 133. François d'Assise fut donc un précurseur du dialogue interreligieux entre islam et christianisme. Cela fut si bien remarqué chez les intellectuels et universitaires musulmans que, dans les années 60-68, un grand universitaire égyptien de l'université Al-Azhar au Caire, à savoir Al-Imrad, présenta une thèse universitaire sur les liens entre François d'Assise et le prophète Mohammed et l'a réussi brillamment. Réussir ce type de thèse à Al-Azhar au Caire est très significatif dans le dialogue interreligieux islamo-chrétien. Comme on le voit, les apports de saint François d'Assise furent et restent d'un modernisme étonnant, d'autant plus que François ne brilla pas, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, par des qualités intellectuelles, au point même que parmi ses frères, il fut honteusement dénigré, voire méprisé, comme en témoignent certains points du déroulement du chapitre franciscain tenu en 1219, où certains frères auraient voulu introduire des modifications tout à fait contraires à l'esprit de pauvreté voulu par saint François d'Assise. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, le problème que fut sa mort et son testament spirituel.
Alors, vous savez que je n'aime pas ça, que vous abordiez des choses aussi, à mon avis, chargées, oui, à moins d'une minute de la fin de l'émission.
Eh bien, mon cher ami, nous allons nous interrompre pour pouvoir mieux goûter la chose la prochaine fois.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci Bernard Vachon.
Avec plaisir, mes amis.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vachereau, curé de Caïlus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.